Bonjour. Vous allez écouter, entendre l'émission mensuelle de la Fédération départementale des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, comme chaque premier mercredi du mois, de 14h à 15h. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huil et moi, Michel Cadouche. La venue du pape à Marseille a été l'occasion d'une énorme opération politico-médiatique, avec messe au stade Vélodrome, défilé dans la pape immobile, la venue du président de la République, Emmanuel Macron, en personne. Déjà, le mois dernier, nous avions abordé les questions posées par la tenue des rencontres méditerranéennes, organisées de bout en bout par l'Église catholique, et incluant des élus de collectivités locales. Depuis cette émission, la Libre Pensée a organisé le 16 septembre une réunion publique au Tourski sur les thèmes suivants. Respect de la loi de 1905 pour la séparation des cultes et de l'État, pour l'abrogation des concordats, pour la fin des privilèges accordés aux religions au pluriel. D'autre part, le 23 septembre, une manifestation contre les violences policières et le racisme systémique a réuni plus de 3000 Marseillaises et Marseillais. Donc aujourd'hui, la Libre Pensée vous propose d'aborder ces deux sujets. Commençons par la venue du pape. Claudette, comment s'est passée notre réunion du 16 septembre au Tourski ? Quels ont été les points marquants ?
Alors, bonjour. Tout d'abord, je voudrais rappeler que cette réunion publique avait été décidée en raison des nombreuses informations qui démontraient les implications de la mairie de Marseille, des représentants de l'État et des collectivités locales aux côtés du diocèse pour l'organisation des rencontres méditerranéennes et la messe du pape. Mais aussi, nous avions découvert les financements publics votés pour ces événements religieux, et le cadre qui structurait ces rencontres, l'application de la charte de Florence. Il s'agissait d'apporter un peu de clarté grâce au débat dans cette situation confuse où l'on voudrait nous faire croire que la laïcité, c'est la reconnaissance et la collaboration entre les cultes et l'État. Alors cette réunion a été un succès, tant par le nombre des participants, un article de la Marseillaise d'ailleurs en rendait compte et annonçait une salle presque pleine, que par la présence de participants concernés venus de tous les départements de la région Sud, de l'excellence de la conférence donnée par Christian Echène et du débat. Sans oublier, évidemment, la qualité de l'accueil du théâtre du Tourski. Il ne sera pas possible ici, évidemment, de vous présenter l'ensemble des interventions qui ont eu lieu durant cette conférence, ni la totalité de la conférence de Christian Echène, ni les réponses apportées à la salle. Je vais donc me limiter à en cibler quelques-unes. Pour le reste, vous pourrez en prendre connaissance de la totalité sur notre site internet et sur celui de la Fédération nationale de la Libre-Pensée. Une première partie était consacrée à présenter les éléments de ce qu'il faut appeler une véritable collaboration entre Église catholique, les élus de différentes communautés locales et l'État, afin d'obtenir, dans un premier temps, la venue du pape à Marseille. Cette collaboration s'est poursuivie par un soutien politique, des aides matérielles et financières apportées au diocèse pour l'organisation des rencontres méditerranéennes et la venue du pape, en complète violation de la loi de séparation des cultes et de l'État. Cette collaboration était emmenée notamment par Jean-Marc Aveline, ce qui est pour le moins naturel, Benoît Payan, ce qui l'est beaucoup moins, et Emmanuel Macron, sans oublier, bien entendu, la présidente de la métropole et du conseil départemental, Martine Vassal, le président de la région, Renaud Muselier, et tant d'autres élus des Bouches-du-Rhône. Elle s'est poursuivie, chacun d'ailleurs a pu le mesurer, durant toutes les rencontres méditerranéennes et durant les jours de présence du pape, au travers de la participation des élus à toutes les cérémonies organisées par le diocèse, l'accueil par le gouvernement du chef religieux de l'Église catholique et la présence escalitée du président de la République à la messe. Nous avons présenté en détail les éléments de cette collaboration que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de développer d'ailleurs sur Radio Galère et dans notre journal L'Impertinent, et notamment le partenariat établi entre le diocèse et Benoît Payan, lequel s'est dépensé sans compter pour répondre aux exigences de ce diocèse et du pape. Nous avons bien entendu rappelé l'origine des rencontres méditerranéennes qui ont pris corps à Florence et dont le but était de débuter la mise en œuvre des décisions prises alors et transposées dans une charte dite de Florence, signée par les évêques et les maires de la Méditerranée, parmi lesquels on trouvait Benoît Payan. Cette charte a été caractérisée durant la réunion publique comme un élément dans le projet du Vatican d'organiser une grande région méditerranéenne dans laquelle les communautés religieuses ou d'autres communautés sont sur le même plan que les institutions publiques, c'est-à-dire une organisation cléricale et destructrice des États-nations. De la conférence de Christian Eschen, nous retiendrons d'abord le rappel de ce qu'est la séparation des cultes et de l'État et la différenciation entre les sphères publiques et privées dans lesquelles elles s'appliquent ou pas. Un autre point abordé a été celui de la loi séparatisme qui remplace un régime de liberté établi par les lois de 1884, 1901 et 1905. Elle remet en cause la loi de séparation des Églises et de l'État et établit un régime de contrôle des cultes directement par l'État. Ce sont dorénavant les préfets qui décident de qui est une religion et qui ne l'est pas, avec une tendance, bien évidemment, à cibler un public particulier, en l'occurrence les musulmans, pour les forcer à se séculariser. Dans l'affaire de la baïa, l'État s'arroge même le droit de décider de ce qui est un vêtement religieux contre l'avis unanime des religieux eux-mêmes, et pendant ce temps, il reconnaît et finance l'Église catholique.
Très bien. Tu as mentionné rapidement la Marseillaise. Mais quels ont été les échos dans la presse de cette réunion ?
Alors, je n'avais pas terminé avec la,
ah, pardon,
la partie,
je croyais que...
la partie qui représentait...
Excusez-moi, je te laisse finir.
Cette même loi remet en question la liberté d'organisation, d'expression et par la mise sous tutelle, sous le joug de l'État, des associations sommées d'adhérer aux valeurs de la République, c'est-à-dire à l'idéologie d'État, en signant un pacte d'engagement. Imposer une idéologie d'État est le propre d'un régime totalitaire. Elle ouvre le champ de toutes les mises au pas et de toutes les dissolutions. L'exposé a montré que ce dispositif ne s'arrêtait pas aux seules associations, mais que les syndicats eux-mêmes pouvaient être visés. Pour entrer dans le détail du sujet, vous trouverez un développement important sur la différence, notamment entre valeurs et principes juridiques. Je vous invite aussi à prendre connaissance du très instructif exposé sur ce que sont les concordats. Enfin, un point détaillé a été fait sur la crise que traverse l'Église catholique, que connaît l'Église catholique, qui prépare un synode, crise largement amplifiée par les crimes qu'elle a perpétrés, qui paraissent au grand jour et ne pourraient être effacés.
Oui, alors... Je te repose cette question. Tu as mentionné donc rapidement la Marseillaise, mais qu'en a-t-il été d'autre dans les médias en général ?
Alors, les réactions par rapport à notre réunion, on les a trouvées dans plusieurs médias, notamment, donc, comme je l'ai cité préalablement, dans l'article paru dans la Marseillaise, écrit par M. Amoury, que nous remercions, qui a rendu compte dans un article conséquent de notre réunion en posant la question de fond, une séparation de l'Église et de l'État, de moins en moins claire. On a trouvé aussi des éléments sur le site de France 3 Régions, qui s'en est fait l'écho, et y a associé d'ailleurs plusieurs associations féministes marseillaises inquiètes du soutien apporté au pape. Un autre journal, un hebdomadaire national, Information ouvrière, en a fait un long compte-rendu.
D'accord. Et une fois le pape parti, est-ce qu'on a eu d'autres informations ?
Alors, il y a évidemment de nouvelles suites à la visite du pape. Les violations sans précédent à la loi de séparation de 1905 se sont poursuivies durant les rencontres méditerranéennes et durant les jours de présence du pape. Finalement, comme nous l'avions supposé, Emmanuel Macron a participé à tous les moments organisés par le diocèse, y compris aux conclusions des rencontres méditerranéennes et à la messe au stade Vélodrome, de même que le maire de Marseille, qu'on a aperçu nettement et souvent à la droite du pape, qui a d'ailleurs enfoncé le clou jusqu'à porter l'écharpe de maire le jour où les rencontres, méditerranéennes rendaient leurs conclusions. Des fois qu'on aurait pensé qu'il était là à titre personnel. On pouvait apercevoir aussi dans toutes ces réunions, dans tous ces événements, les présidents du conseil régional, de la métropole, du conseil départemental et du conseil régional, je l'ai déjà dit. Sur le plan politique, la participation du président de la République à la messe, ses rencontres avec le chef religieux ont été dénoncées par plusieurs organisations comme une violation de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. L'ancien président de l'ADMD a communiqué son indignation, déclarant « Dans le pays de la laïcité, c'est en fonction du pape qu'on gère l'agenda parlementaire ». Plusieurs associations féministes, j'en ai parlé un petit peu plus haut, ont dénoncé cela comme une remise en cause de la loi de 1905, un soutien à l'Église catholique qui poursuit son combat contre l'avortement et sa politique de discrimination envers les femmes. Nous avons d'ailleurs été invités avec Femmes Solidaires, dimanche 1er octobre, sur ce sujet, sur Radio Galère, que nous remercions de son invitation. Tout ceci est plutôt une bonne nouvelle pour la défense de la loi de séparation des cultes et de l'État. Concernant les financements, enfin, l'aide apportée par la métropole, qu'elle qualifie d'ailleurs d'aide en nature à l'association Mariam, dont le siège social se trouve à l'archevêché, qui n'a qu'un membre de droit, le cardinal Aveline, est passée de 140 000 euros à 157 000 euros pour l'organisation des rencontres méditerranéennes. Mais le caractère de cette association fait d'ailleurs grincer des dents les services juridiques du conseil régional lui-même, qui ont demandé aux conseillers de revoir leur copie, c'est-à-dire de revoir la décision qu'ils avaient prise de verser 200 000 euros à cette même association. Donc, à suivre. On est toujours sans nouvelles de la facture émise par le maire de Marseille pour la location du palais du Pharaon. Nous restons bien entendu vigilants, d'autant que le diocèse de Marseille accuse un manque à gagner de 600 000 euros pour couvrir les frais de ces rencontres. Enfin, nous avons constaté que l'association Mariam s'est vue exonérée des frais concernant l'occupation de l'espace public. Nous allons bien entendu nous tourner vers les protagonistes de ces financements.
Oui. Bien, pour illustrer ce que vient de nous dire Claudette, nous allons passer une chanson de Jacques Brel, Les Bigotes.
Oui, alors, bon, cette chanson, elle ne vous échappera pas qu'elle est en rapport direct avec ce que vient de nous dire notre camarade Claudette. Cette chanson, Les Bigotes, faisait partie en définitive d'un disque qui était sorti en 1963. C'était un album qui n'avait pas de titre d'ailleurs. Et voilà cette chanson qu'on va se faire une joie de vous passer. Pour ceux qui ne la connaissent pas, puisque je vous rappelle qu'elle date de 1963.
Elles vieillissent à petits pas, de petits chiens aux petits chats, les bigotes. Elles vieillissent d'autant plus vite qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite, comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable, en les voyant parfois, je crois que non. Je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu, en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi par les bigotes. Elles processionnent à petits pas, de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati, patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. J'ai vêtu de noir, comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures. Elles s'embigotent les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigote. Le samedi soir après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigote. Car c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes, qui préfèrent se ratatiner de vêpre en vêpre, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs fesses, de bigotes. Puis elles meurent à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes, qui cimetièrent à petits pas, au petit jour d'un petit froid, de bigotes. Dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elles, une auréole et deux bouts d'ailes, et elles s'en à petit pas de bigote.
Merci. Donc, Henri, les médias se sont longuement étendus sur les paroles de ce pape François sur les réfugiés. Qu'en penses-tu ?
Alors, dans toutes ces affaires-là, il faut toujours voir d'un côté les discours et de l'autre côté, les actes. Sinon, je me rappelle par exemple que Sarkozy s'était présenté aux élections pour être président en disant « je suis le candidat de la feuille de paye ». Les actes ont guère correspondu. On a vu François Hollande se présenter aux élections présidentielles en disant « je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que les actes ont guère correspondu. Je ne parlerai même pas d'Emmanuel Macron qui sévit actuellement. Juste pour signaler que le grand argument de la réforme des retraites, c'était on fait ça pour sauver le régime de retraite par répartition, alors qu'un an avant, ou un an et demi avant, ils avaient préparé une réforme qui n'a pas pu être menée à bien ou à mal, parce que cette réforme prévoyait justement la liquidation de la retraite par points. Donc, pour faire simple, d'un côté les discours. Le pape parle des migrants, d'ailleurs plus que des réfugiés, hein, il parle des migrants. Et puis voyons un peu les actes. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, encore une fois, hein, le pape catholique, comme tous les religieux, a le droit de venir en France. Et ça n'est pas réservé aux catholiques, aux chefs religieux catholiques. C'est toute religion peut se faire représenter en France et peut faire des actes religieux, des messes, et tout ça ne pose strictement aucun problème. Là où il y a un problème, c'est quand on dit « oui, mais là, le pape, c'est quelque chose de particulier, et c'est normal que les élus représentant la République et les collectivités territoriales, les mairies, les départements, la région, la communauté, participent aux événements, y compris religieux, parce qu'il a un grand discours de fraternité vis-à-vis des migrants. » Alors, regardons les actes, après les discours. Essentiellement, je vais reprendre ce qu'on avait dit déjà il y a un mois. Je vais prendre trois exemples. Le premier, on avait déjà parlé il y a un mois. Les sources, alors souvent on dit « Ah ouais, mais les libres penseurs voyaient le mal partout, dès qu'il s'agit de l'Église catholique, du pape, de Monseigneur le cardinal Aveline, tout ça, vous faites des histoires. » Alors là, ma source, c'est deux médias. LaProvence.com, c'est La Provence, le journal par Internet, qui n'est pas suspect d'être hostile à l'Église catholique ni d'être favorable à la libre pensée. Et puis un organe d'information régional, il s'appelle Mars Actu. La Provence du 4 juillet 2022 et Mars Actu du 24 août 2022 sont mes sources. Donc La Provence titrait « Le scandale des serveuses pour 15 euros par mois à Notre-Dame-de-la-Garde ». Et l'association gestionnaire du restaurant de Notre-Dame-de-la-Garde, qui s'appelait à l'époque, puisqu'ils ont dû changer forcément vu le scandale, la famille missionnaire Donum Dei, et était déférée devant le tribunal correctionnel d'Épinal le 16 août 2022 pour exécution de travail dissimulé, emploi illégal d'étrangers non munis d'autorisation de travail salarié et des conditions de travail frisant l'esclavage. Sans, évidemment, en oubliant de payer les cotisations à l'URSSAF, c'est-à-dire à la Sécurité sociale, aux caisses de retraite, etc. Alors, des dizaines de jeunes femmes, venues principalement d'Afrique et d'Asie, ça a duré pendant des années, et pas simplement au restaurant à Marseille, qui s'appelait L'Eau Vive, si j'ai bonne mémoire, mais à Lisieux, à Domrémy. Alors, Lisieux, c'est la ville de Sainte-Thérèse de Lisieux. Domrémy, c'est Jeanne d'Arc. Lourdes, c'est la Vierge Marie, selon leur terminologie. Et donc aussi à Besançon, à Menton, et bien sûr, donc à Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde. Et cette association a été condamnée par le tribunal d'Épinal à 940 000 euros d'arriérés de cotisations à payer à l'URSSAF, 940 000, presque un million, et à 200 000 euros d'amende. La défense qui avait été employée par ces employeurs, je rappelle, hein, qui employaient, selon la Provence, mais on sait que c'est vrai par ailleurs, ces jeunes femmes pour 15 euros par mois, pour travailler 40 heures par semaine, voire 50 heures par semaine. Et leur argument, c'était « Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes une collectivité religieuse. On ne peut pas nous appliquer le droit du travail. Et nous sommes également une congrégation religieuse reconnue par le Vatican. » Ce qui est tout à fait exact. C'est une congrégation religieuse reconnue par le Vatican. Donc si c'est ça la fraternité et l'accueil qu'il faut réserver aux migrants, nous, la libre pensée, on ne marche pas dans la combine. Hein. Alors on va nous objecter. Ah oui, mais les libres penseurs, vous voyez le mal partout. C'est un événement isolé. Alors je vais prendre un deuxième exemple. Si je les prends tous, c'est pas une émission d'une heure qu'il faut faire. C'est une émission d'un mois, jour et nuit. Hein. Mais j'en ai pris trois. Il y a une congrégation qui s'appelle les Missions étrangères de Paris, qui est tout à fait intégrée à l'Église catholique et dont la vocation, si j'ose dire, consiste à propager la foi catholique, à former des prêtres, à entretenir des séminaires, à dire des messes, enfin tout ce qui est du culte catholique, dans des pays étrangers, comme son nom l'indique. Et essentiellement, c'est pareil en Asie, principalement. En Afrique aussi un peu, mais principalement en Asie. Et donc, le 11 mai 2023... C'est exprès. Hein. J'ai pris un exemple 2022, il y a un an à peu près, un petit peu plus d'un an. Là, c'est 11 mai 2023. C'est vraiment des exemples récents. Donc les missions étrangères de Paris font appel à un cabinet de consulting pour un bilan précis, deux points ouvrés les guillemets, pour dresser le bilan d'abus sexuels commis entre 1950 et 2023, c'est-à-dire pour une durée grosso modo de 75 ans, 74 ans et demi peut-être, j'en sais rien, en gros 75 ans, trois quarts de siècle, des abus sexuels commis par des membres de cette institution à l'encontre d'adultes ou de mineurs, hommes ou femmes d'ailleurs, de ces pays étrangers. Voilà, j'ai pu relever la Thaïlande, le Japon... bien sûr en France aussi, parce qu'ils ont des établissements en France. Et donc, 3 ans... Alors, pourquoi ils ont fait cet appel? Je cite hein, vraiment l'appel du mouvement... des missions étrangères de Paris. C'est pas un titre qui aurait été fait par la libre-pensée. Voilà. Donc, ils s'adressent à un cabinet de consulting. En principe, on va plutôt porter plainte à la police. Mais c'était pas la peine, là, puisque 3 enquêtes de police déjà étaient en cours concernant des prêtres. Alors, des mises en cause, je ne vais pas en faire la liste, notamment l'évêque de La Rochelle. Donc l'histoire a duré 75 ans, donc ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un acte isolé. Pas plus que l'histoire des restaurants, puisque c'était dans une demi-douzaine de villes quand même. Le journal La Croix, qui n'est pas non plus un journal de la libre-pensée, a publié ceci, deux points, ouvrez les guillemets, « La mise en cause récente de plusieurs prêtres des missions étrangères de Paris » interroge sur l'existence d'une culture du secret et de la transgression propice à la commission de violences sexuelles. le journal La Croix. Pas dire que c'est des libres penseurs. Et donc, il y a toute une. Ce journal publie, et puis c'est publié dans toute une série d'autres publications, toutes liées à l'Église catholique d'ailleurs, que les plaintes avaient été remontées jusqu'à Luigi Ventura, qui était donc au courant. Mais qui donc était Luigi Ventura ? Ce n'est pas un acteur, hein. C'est Luigi Ventura, c'est le nonce apostolique. À Paris, en France, le nonce apostolique, c'est-à-dire, pour parler très vite, c'est parce que le Vatican n'est pas un État, mais on pourrait dire que c'est l'ambassadeur du pape auprès du gouvernement de la République française, même pas du gouvernement de l'État. C'est remonté très haut dans la hiérarchie de l'Église, hein, puisque c'est, normalement, il est branché direct avec le Vatican. C'est l'ambassadeur, il fait fonction. On considère que c'est un ambassadeur. Bien entendu, ils se sont tous strictement abstenus de faire quoi que ce soit. Et il y a un prêtre qui avait dénoncé les scandales auprès de ses collègues. Alors devinez quoi, c'est lui qui a été suspendu. Pas les autres. L'ancien supérieur des missions étrangères de Paris était au courant, Luigi Ventura, je l'ai dit. Il semblerait que le cardinal Barbarin, c'est celui qui n'a pas été poursuivi puisque le délai de prescription était dépassé. Et s'il avait dit « Dieu merci, tout cela est prescrit ». Il y a un reportage de France 24, c'est-à-dire ça fait partie de la cellule investigation de Radio France, le 15 septembre 2023, c'est-à-dire il y a 20 jours, là, il y a 3 semaines. Donc vous pouvez vous procurer tout ça, tout ce que je dis, on peut se le procurer sur Internet très facilement. Ils ont fait un reportage qui s'appelle « Un si lourd silence ». Et dans ce reportage, il est indiqué que l'actuel supérieur général, M. Vincent Sénéchal, supérieur général des missions étrangères de Paris, reconnaît ne pas chercher... Alors voilà, sa forme, c'est extraordinaire. Il reconnaît ne pas chercher d'éventuelles victimes, il dit, de crainte de réveiller chez elles un traumatisme. Mais il affirme se tenir à leur disposition. Vous remarquerez la formule. C'est-à-dire, on sait qu'il y a eu des actes d'abus sexuels commis par plusieurs prêtres et même un certain nombre pendant 75 ans, mais on ne demande pas aux victimes de se signaler, on ne recherche pas s'il y a des victimes dans les parages, parce que vous comprenez, on ne voudrait pas les traumatiser à nouveau. Alors que le fait de vouer leur souffrance à l'oubli, c'est quelque chose qui ne serait pas du tout traumatisant, d'après leur... Donc c'est une enquête, comme je l'ai dit, un si lourd silence, et ça a été mis en ligne le 15 9 2023. C'est très récent. C'est un des exemples de ce qui a été mis en évidence, c'est l'histoire des missions étrangères de Paris, où est lourdement impliqué le cardinal de La Rochelle, du rapport Sauvé. C'est un des exemples de ce qu'on peut trouver dans le rapport Sauvé, qui est un rapport qui a été établi à la demande de l'Église catholique par M. Sauvé, qui est lui-même un catholique, qui a fait une enquête tout à fait honnête, objective et impartiale. Et les conclusions de cette enquête, c'est qu'il y a 330 000 victimes en vie. 330 000 victimes en vie. D'abus sexuels de la part de l'Église ou dans l'Église, ou, voilà, de dignité religieuse, et il y aurait 1300 religieux identifiés, repérés, confirmés, je ne sais pas comment il faut dire. Et une chose qui était importante, on en a parlé aussi dans notre réunion publique du 16 septembre au Tursky, il y a une commission d'indemnisation qui a été mise en place, et qui reçoit les gens qui se sont déclarés comme victimes, qui ont fait des procès et tout, et un des dialogues qu'on a pu publier, puisque la Libre Pensée a un peu participé, même pas mal participé à cette émission qui est passée à la télé, ce n'est pas de l'argent que vous cherchez, dit la responsable de la commission d'indemnisation, mais une reconnaissance. Et elle évoque la possibilité quand même, pour aider cette personne, de lui donner quelque argent pour acheter des croquettes aux chiens. Je vous garantis que c'est vrai et que ça, vous pouvez consulter. Alors, c'est une émission qui s'appelle Complément d'enquête qui est en ligne sur qui est passée sur la deuxième chaîne. Et vous pouvez consulter ça si vous faites lp-13.org. Vous trouverez le moyen facilement, c'est le site de la Libre Pensée, de consulter la totalité de l'enregistrement de l'émission de télé. Voilà. Et d'ailleurs, la Libre Pensée a elle-même publié un livre complet sur cette affaire. On en parlera à une prochaine émission, on fera un peu la publicité de ce bouquin. Donc cette émission complément d'enquête, c'est une chose intéressante, est nominée, c'est tellement sérieux et tellement bien fait comme émission, est nominée pour le prix Albert Londres. Alors le prix Albert Londres, c'est un peu l'équivalent en France du prix Pulitzer américain pour récompenser les journalistes qui font un excellent travail d'investigation. Je ne sais pas s'ils seront lauréats, mais déjà, le fait qu'ils soient nominés, c'est la reconnaissance du sérieux et du caractère inattaquable, y compris juridiquement inattaquable, du travail qui a été fait, si je me fais bien comprendre. Et toujours, donc là, c'est aussi des migrants et des étrangers, voire même des séminaristes, migrants et étrangers, qui ont été victimes. Et puis, pour être tout à fait dans l'actualité immédiate, je voudrais parler de la grève des travailleurs d'Emmaüs. Alors, c'est toujours la même histoire. On nous dit que ce n'est pas des travailleurs, hein, c'est des compagnons. Être compagnon, ça n'empêche pas quand tu travailles d'être salarié, mais pour l'Église, il paraît que oui. Et donc, en juillet 23, un certain nombre de sans-papiers, une vingtaine de sans-papiers, compagnons donc d'Emmaüs, se sont mis en grève à Saint-André-les-Lilles, à la Grande Sainte après, et puis là, il y a un troisième centre, et puis un quatrième maintenant, Tourcoing. La grève vient de démarrer. En gros, je ne vous fais pas un truc très approfondi, mais en gros, c'est 40 heures de travail par semaine pour 150 euros par mois et la promesse d'une régularisation. Depuis Charles Pasqua, tout le monde sait que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et donc, évidemment, ils ne sont toujours pas régularisés, mais ils continuent à travailler 40 heures par semaine pour 150 euros par mois. Et notamment ceux de Saint-André-les-Lilles expliquent qu'ils sont logés dans des conditions tout à fait indignes et que les rapports, ils sont, dans le cadre de leur travail, en butte à des conditions de travail scandaleuses, en matière d'hygiène et de sécurité notamment, et qu'ils sont en butte à des propos racistes et à des attitudes méprisantes. Tout ça se trouve dans la presse en ce moment. Là, c'est en cours, cette grève des compagnons, entre guillemets, d'Emmaüs. Et notamment l'ULCGT de ces localités concernées, notamment de Saint-André-les-Lignes, est en pointe dans la défense de ces travailleurs et de leurs conditions de travail. Donc on voit bien que tous les discours sur la fraternité due aux migrants, ce qu'il y a sur la boîte ne correspond pas du tout au fromage qui est à l'intérieur. Puisqu'il y a des discours sur la fraternité, la pratique est celle d'une exploitation du travail, d'une exploitation sexuelle y compris, d'abus divers et variés qui sont menés avec un cynisme considérable et une brutalité sans nom. Voilà.
Eh bien, je vous propose d'écouter maintenant Lèche-Botte Blues.
Oui, chacun comprend pourquoi.
Oui. Alors, cette chanson, hein, Lèche-Botte Blues, donc, c'est une chanson de Boris Bergman. Alors, un petit peu d'histoire, tout simplement. C'est qu'en définitive, Boris Bergman, c'était le parolier de Bachoum, hein, de Bachoum, d'Alain Chamfort et de Paul Persson. Et il se trouve qu'il a voulu faire... Initialement, cette chanson était faite justement pour Bachoum. Et bien entendu, Comédie Mitchell lui a demandé de lui faire un 33 tours, un album. C'était son 27e album. Ici Long, qui s'appelait, et cet album est paru en 1989. Alors, bien entendu, il ne vous échappe pas qu'avec Lèche-Botte Blues, on devine que l'ancien chanteur des Chaussettes Noires, hein, il s'est fait bien plaisir quand même. Et voilà que donc nos institutions rhabillées pour l'hiver, les politiques, le fisc, la police, le showbiz, tout y passe. Thank you.
Michel, la Fédération de la Libre Pensée était présente avec ses drapeaux à la manifestation du 23 septembre. Peux-tu nous dire pourquoi et ce que tu as pensé de cette manifestation ?
Alors, le pourquoi et ce que j'ai pensé. Donc, d'abord, il faut savoir que cette marche unitaire du 23 septembre donc, avait pour mot d'ordre pour la fin du racisme systémique des violences policières, pour la justice sociale et les libertés publiques. Alors je rappelle un peu le contexte que l'on retrouvera souvent d'ailleurs dans le communiqué que l'on avait fait. Hein, le meurtre de Naël tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre a mis de nouveau la lumière sur ce qui doit cesser. Une politique néolibérale imposée par des méthodes autoritaires, des lois sécuritaires et une doctrine du maintien de l'ordre décriée jusque dans les plus grandes instances internationales. Une politique régressive qui fait le lit de l'extrême droite et piétine toujours plus nos libertés publiques, nos modèles sociaux, notre avenir face à l'effondrement écologique. En première ligne des victimes de ces choix politiques, on retrouve donc les habitants et notamment les jeunes des quartiers populaires et des territoires ultramarins, qui subissent de plein fouet l'aggravation de toutes les inégalités sociales dans un contexte économique d'inflation, de hausse des loyers, des prix de l'énergie et de politique d'urbanisme brutale. Alors vous trouverez la suite de ce communiqué sur le site qu'on a déjà cité tout à l'heure. Alors c'est pour dénoncer ces violences que plusieurs associations, partis politiques et syndicats appelaient à cette manifestation. Alors partis de la Porte d'Aix vers la Belle de Mai, nous étions environ 3000. Dans cette manifestation, la libre pensée était présente avec ses drapeaux. La France insoumise représentait la plus grande partie du collège, du cortège. Excusez-moi, le collège, oui, le collège. Bon. Et je rappelle que certains partis, comme le Parti communiste et le Parti socialiste, n'appelaient pas à cette manifestation. Alors je vous rappelle quand même qu'en 2021, ces partis, que ce soit le PCF ou le PS, participaient au rassemblement en aide à la police avec Darmanin et le RN. Hein. Vous voyez que... alors sous prétexte que les mots d'ordre ne leur convenaient pas. Voilà. Alors, bien sûr, quand on vous dit que la police tue, que la police massacre, je tiens à apporter un petit témoignage. Hein. Ce témoignage, ce n'est pas moi qui l'apporte. Hein. On m'a communiqué il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est notre camarade Michel qui est avec nous en ce moment, qui a attiré mon attention sur une émission qui était justement avec le thème « La police, violence légitime ou illégitime ». Alors, si vous voulez retrouver cette émission, vous la trouverez facilement sur le site de Radio France, hein, France Inter, dans les podcasts de France Inter, sur l'émission « Interception », et c'est l'émission du 1er octobre 2023. Alors, ce que l'on retire dans cette émission, en partie, hein, parce que bien entendu, je n'ai pas tout mis là-dedans, mais dans une grande partie de cette émission, il y a des témoignages accablants démontrant ces violences policières. Et là, ce n'est pas nous qui le disons. L'avocat, par exemple, qui défend le policier ayant tiré sur Naël, qui est également formateur à la police nationale, reconnaît que de cette affaire Naël, c'est le fait que les images qui ont circulé très rapidement sur les réseaux sociaux concernant la vidéo montrant le tir policier a tout changé. Alors, parce que dans cette vidéo, il n'y avait pas d'affaire. Parce que sans la vidéo, il n'y aurait pas eu d'affaire. Il n'y aurait eu aucune poursuite judiciaire et on aurait pris pour argent comptant le document policier mensonger indiquant que Naël, tout au moins, a percuté un policier. Là, on a l'impression, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat. Hein. Là, on a l'impression que beaucoup de policiers se lâchent complètement dans la violence et donnent surtout l'impression qu'ils sont couverts par la hiérarchie et qu'ils peuvent donc se permettre ce genre d'actes très violents. C'est tout un problème et ça, c'est nouveau. Je continue à citer. En 2005, on a eu des émeutes qui ont ressemblé un petit peu à ces dernières. Mais il n'y a pas eu de morts ou de blessés graves. Donc moi, je m'interroge, formateur de la police. Au regard des dossiers que je traite, j'ai l'impression, peut-être aussi, parce que je suis plus sollicité sur des affaires plus graves, que les violences légitimes ne sont plus importantes. Alors dans ce reportage, il y a encore un autre témoignage qui est intéressant. Hein. C'est en définitive le témoignage de Laurent Bigot, qui dans sa vie d'avant a été sous-préfet, puis est devenu gilet jaune et s'est mis à filmer des violences policières illégitimes. Alors c'est intéressant parce que je vous signale, je rappelle, sous-préfet il a été ce gars-là, donc il connaît un peu le problème. Alors là, c'est la violence qu'on observe dans les manifestations. On n'est plus du tout dans le cadre de la force strictement nécessaire qui est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Je continue à citer. Il n'y a pas eu de débordement. Des charges incompréhensibles avec un niveau de violence des forces de l'ordre qui ne sont plus là pour maintenir l'ordre, mais pour faire mal. Pour décourager les gens de revenir en manifestation, en fait. Ça, c'est pas du maintien de l'ordre, mais très clairement de la répression. Je continue à citer. On est sorti de l'état de droit, c'est quand on a d'abord des forces de l'ordre qui viennent châtier les manifestants, mais dans un état de droit, c'est le rôle de la justice de punir, pas les forces de l'ordre. Il continue. Je pense que les politiques ont une lourde responsabilité dans le vocabulaire qu'ils emploient, un vocabulaire guerrier militaire. Il dit, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la police est malade, elle souffre de beaucoup de maux, elle souffre d'individus qui ont un appétit pour la violence et n'ont pas leur place dans la police. Et elle souffre d'un emploi plus politique. Il y en a d'autres qui se comportent violemment parce qu'ils ont peur. Il y en a d'autres qui se comportent violemment parce qu'ils sont tellement mal formés qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y a plein de choses à régler dans l'institution de police. Voilà ce qu'on peut dire qui pourrait être dans un moment qui légitime en définitive notre demande de manifester contre ces violences policières. Alors après, on parle également, là c'est juste une petite précision, on parle de police républicaine. Hein, mais là, il y a un problème quand même. Car la condition première pour qu'il y ait une police républicaine, c'est que l'on soit dans une république. Or, la Ve République n'est pas une république. C'est peut-être une monarchie, mais même pas constitutionnelle, car il n'y a pas de constitution sans séparation des pouvoirs. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu. D'ailleurs, il a dit, il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutive. Comme c'est le pouvoir qui peut arrêter le pouvoir, il n'y en a pas, sous la Ve République, de pouvoir, ni même de contre-pouvoir qui pourra arrêter le pouvoir de l'exécutif. Pour qu'il y ait vrai éventuellement une police républicaine, il faut mettre à bas les institutions de la Ve République. Il faut redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante libre et souveraine. Sans cela, le débat sur une police républicaine est une farce pour faire diversion et amuser le bon peuple. Voilà ce qu'on pouvait tirer de cette manifestation du 23. Alors il faut savoir qu'elle a eu notre manifestation quand même. Elle a eu un succès, hein, puisque, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti de la porte d'Aix pour aller vers la Belle de Mai. Et on est passé, donc, comme il y avait le pape, venu de pape oblige, hein, les quartiers sud étaient réservés pour le pape, les quartiers nord pour la manifestation. Donc on s'est retrouvé dans des quartiers où on a eu un accueil vraiment très sympathique, et non seulement sympathique, mais plusieurs habitants se sont joints à la manifestation. Ce qui prouve que tout compte fait, elle avait sa raison d'être, hein, contrairement à ce que, même avec les mots d'ordre qu'ils avaient. Voilà ce que je pourrais dire sur cette journée du 23.
Bien, peut-être avons-nous une chanson appropriée.
Oui, effectivement. Excusez-moi, j'avais un peu coupé le truc. Alors, la chanson que nous allons penser maintenant, bien entendu, elle était en rapport avec pacifiste. Alors, pourquoi pacifiste? Parce qu'à un moment donné, on devait également intervenir, c'est juste un petit rappel, on avait prévu de faire une petite intervention sur ce qu'on a appelé le SNU, vous savez, le Service National Universel. Or, il se trouve que ce SNU, il change tous les jours, tous les mois, il y a de nouvelles versions, là, on entend une nouvelle version. Qui normalement, à l'heure actuelle, serait censément un truc au mois de mars, qui partirait dans des classes de seconde. Aujourd'hui, on nous remplace ça, on nous annonce qu'il y aura 15 jours, fin juin, pour toutes les classes de seconde, dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? On n'en sait strictement rien, mais on espère pouvoir en savoir un peu plus d'ici quelques temps. À ce sujet, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il existe un comité, non au CNU, qui travaille toujours sur le sujet et qui fait en sorte de faire connaître ce qu'il y aura par la suite. Voilà pourquoi on a passé cette chanson des Sunlight. Alors, les Sunlight, ça ne vous échappe pas, hein, c'est assez court, hein, c'est tout simplement une chanson qui a été... c'est une chanson qui est pacifiste, qui a été écrite en souvenir des poilus et de toute une jeunesse disparue dans l'absurdité des combats de la Grande Guerre. Et cette chanson, elle a été écrite, elle a été créée en 1937 par Max Auroger, hein, toujours notre esprit de dire on connaît en savoir un peu plus sur ce qu'on met, et elle avait été reprise en définitive en 1967 par un groupe que certains de mon âge connaissent, c'est les Sunlight. Voilà, la chanson, c'est « Ne joue pas aux soldats ».
Aux soldats, mon cher petit bonhomme, les sabres et les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard, tu en auras, quand tu seras un homme, je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fuir. Ces joujoux, la voiture, rappellent trop la guerre, les chagrins et les deuils que l'on voit ici-bas. ils ont trop fait pleurer le cœur des pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant aux soldats. Faut-il que des parents n'aient rien dans les ménages les soirs de carnaval pour déguiser encore leurs enfants en poilus comme des petits singes qui seraient habillés dans la veste d'amour, la cape militaire et le dernier emblème, le linceul dans lequel vos fils dorment là-bas. Au moins respectez-les les soirs de carnaval et ne déguisez pas vos enfants en soldats. Rappelle trop la guerre, les chagrins et les deuils que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer le cœur des pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant aux soldats.
Merci. Maintenant, je vous propose de retenir une date sur vos agendas. Le samedi 18 novembre, à 10h, la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre Pensée organise une conférence pacifiste à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Notez là et venez nombreux, vous verrez, c'est toujours passionnant. Et puis, je vais vous présenter les dernières publications de la Libre Pensée. Tout d'abord, le numéro de La Raison, qui est le mensuel national. Vous y trouverez un dossier qui traite de comment gérer les interdits religieux alimentaires dans une république laïque. Vous y trouverez une déclaration de Suisse, de libre-penseurs suisses. C'est de la libre-pensée romande. Il s'insurge contre une résolution du Conseil des droits de l'homme qui prend les choses d'une manière qui ne correspond pas à la laïcité. Voilà, donc c'est une intention de résolution qui concerne la question des exemplaires du Coran qui ont été brûlés. Vous aurez aussi toute une série d'éléments. Il y a un petit paragraphe scientifique qui m'a passionné. Il y a littérature sur un écrivain qui s'appelait Vassili Grossman. Donc voilà une des publications de la Libre Pensée. Une autre publication, c'est ce trimestriel, c'est une revue qui fait des dossiers. Et le dossier, le dernier, qui vient de nous arriver, de septembre 2023, porte sur « Tant de femmes oubliées ». Alors, vous y découvrirez une pionnière du mouvement suffragiste en Angleterre qui s'appelait Mary Fields. Le combat des femmes pour l'indépendance en Grèce. Le féminisme universaliste, excusez-moi, toujours bien vivant au Québec. On pourrait aussi découvrir Marthe Bigot et ce qu'elle a écrit sur Flora Tristan et d'autres aussi. Voilà. Et pour terminer ces publications, la Libre Pensée a créé un observatoire social qui vient de publier son cahier numéro 7. Et vous y pourrez y trouver toute une réflexion sur le mouvement contre la réforme du droit des retraites. Vous y trouverez aussi une réflexion sur l'histoire récente de la CGT. Voilà, c'est des dossiers copieux, hein, et donc tout à fait intéressant pour les militants ouvriers. Voilà, donc je voudrais maintenant remercier Claudette, Henri et Michel. Vous pourrez retrouver cette émission, comme d'habitude, sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Et à mercredi 1er novembre à 14h.
Oui, mon cher Michel, moi je tiens juste une petite précision, parce que charité bien ordonnée commence par ça-même, hein, comme quoi on a fait des trucs, on a appris des choses pendant la présence des évêques. C'est que d'abord, et je tiens à faire connaître quand même que nous avons une brochure qui paraît quand même, qui s'appelle un excellent journal, qui s'appelle L'Impertinent. Il est quand même bon de rappeler que nous avons notre brochure, que nous vous appelons d'ailleurs à vous abonner, hein, vous trouverez ça sur le site, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la présence du pape.
Vous pourrez retrouver cette émission sur le site.
Excusez-moi, il y a un petit... Donc, vous vous retrouverez dans cet impertinent, dans ce dernier impertinent, hein, par exemple, les explications sur la charte de Florence. Hein, pourquoi pas, on en a parlé, tout ça. Vous le retrouverez dans cette brochure. Vous retrouverez exactement ce que je viens de dire, plus ou moins sur les CNU également, et bien d'autres articles qui sont très intéressants. Donc, vous trouverez cette brochure sur l'abonnement sur le site de la Libre Pensée. Et moi, comme je suis à la régie avec mon camarade Daniel, je tiens à le remercier et à remercier également Radio Galère, puisque c'est grâce à eux que nous avons ce temps d'antenne. Voilà, je vous remercie.